La parole du jour avec Paul Rodier.
Chers amis, en ce mardi, bonjour. Hier, nous avons laissé François-Xavier à Goa, où il est arrivé le 6 mai 1542, après un voyage de 1 an et 1 mois, ayant traversé le Cap de Bonne-Espérance. François gardera un très mauvais souvenir de ce voyage. Il écrira dans sa correspondance, je cite, « Ô Seigneur, pour l'univers entier, je n'aurais accepté d'affronter tant de fatigue un seul jour. » Il en sera de même lors de ses nombreuses autres traversées. Nous avons du mal à réaliser que là où il faut maintenant 5 ou 6 heures d'avion, il fallait à cette époque 1 an de navigation en moyenne. Notre rapport au temps et à l'espace a complètement changé en 5 siècles. À Goa, l'immoralité, la corruption et l'arrogance des Portugais lui sautent aux yeux et le souci des indigènes l'assaille. Aussi part-il vers le sud, chez les pêcheurs, paravers, avec 3 jeunes séminaristes goanais. Il s'installe au milieu des paravers, adopte leur régime alimentaire à base de riz et de poissons séchés et s'avance vers eux muni d'une clochette pour leur faire répéter les prières chrétiennes élémentaires qu'il annonce dans un tamoul approximatif. Il leur fait répéter des invocations du genre « Mon Dieu, je crois, mon Dieu, faites que je crois ». Le témoignage de sa propre prière, intense, de jour comme de nuit, s'ajoute à cet enseignement rudimentaire et suffit à émerveiller de nombreux paravers qui se font baptiser en masse. Après un bref retour à Goa pour faire face à ses responsabilités de nonce, c'est-à-dire légat du pape, François retourne sur la côte des paravers pour une seconde mission. Il y rencontre les brahmanes, mais n'ira guère plus loin et méconnaîtra la richesse de leurs sources culturelles. Il est trop pressé par le déroulement des événements. Un raja local facilite des baptêmes en masse, mais un autre prétend faire renier les nouveaux baptisés. Beaucoup refusent de renier. Mis à mort en 1544, ce sont les premiers martyrs de la région. Blessé par les comportements répréhensibles des Portugais qui pensent surtout à s'enrichir et à profiter de leur pouvoir, atteint au plus vif par les malheurs de tant de chrétiens qu'il vient de baptiser, François se recueille à São Tomé, près de Madras, sur la tombe présumée de saint Thomas, le lointain apôtre de ces lieux. Il subit des pressions. D'un côté, on insiste pour qu'il s'établisse à Goa, mais il entend aussi l'appel du large. On lui parle de Malacca, en Malaisie, en lui faisant miroiter des espoirs de conversion massive. Il hésite, il est seul. C'est une longue nuit, pénible et crucifiante. La lumière ne peut venir que de la prière. Après de douloureuses tergiversations, l'esprit l'éclaire. Je cite une de ses lettres. « Je sentis et compris que c'était la volonté de Dieu que j'aille en ce pays de Malacca. Si je ne le faisais pas, il me semblerait que Dieu ne me pardonnerait ni en cette vie ni en l'autre. » Il reçoit à Malacca en septembre 1545 un accueil enthousiaste. La ville est un centre commercial important. La population est cosmopolite. Toutes les religions y sont représentées. François s'active à traduire en malais les prières et documents de base qui lui servent pour traduire et instruire les bonnes volontés. Malheureusement, comme d'habitude, une partie de son énergie doit s'appliquer à remettre la petite colonie portugaise sur des chemins plus évangéliques, car la débauche et la paduga y font des ravages. Sur la foi de rencontre de hasard, on lui fait miroiter l'ouverture possible au christianisme d'une population moins islamisée plus loin, dans les lointaines Moluques, entre Bornéo et la Nouvelle-Guinée. L'appel du large de nouveau. En janvier 1546, il s'embarque pour l'île d'Amboine, où il visite et réconforte la petite minorité chrétienne. On le supplie en vain de rester, mais son regard se porte déjà plus au nord, vers l'ensemble des îles du Mort. Elles ont une réputation terrifiante. On y assassine et empoisonne pour un rien. Les pressions se multiplient pour l'empêcher de risquer sa vie sur ces terres inhospitalières, mais sa détermination est farouche. « Emportez au moins un peu de contrepoison, lui dit-on. » Et lui de répondre « Dieu me suffit. » François avait raison. Malgré la violence ambiante, rien de fâché ne lui arrivait, sinon des consolations spirituelles abondantes. Je cite une de ses lettres. « Ces îles sont toutes disposées et toutes préparées pour qu'en peu d'années, un homme puisse y perdre la vue des yeux corporels grâce à l'abondance des larmes de consolation. » Nonce apostolique pour toutes les églises d'Extrême-Orient, il lui faut revenir une fois de plus à Goa, le centre névralgique des missions, pour administrer et approfondir l'évangélisation. Sur la route du retour à Malacca en décembre 1947, on lui présente Anne Giraud. C'est une rencontre décisive. Anne Giraud, le japonais, est un homme peu banal. Pour un meurtre qu'il a commis, il a dû fuir son pays. Il est bouddhiste. Il se pose des questions métaphysiques. Il a entendu parler du sage d'Occident et veut le rencontrer. Il a affronté mers et tempêtes pour aboutir et le voilà devant François. Il est catégorique. Les Japonais seraient réceptifs au message de l'Évangile. Anne Giraud et deux autres compatriotes sont baptisés à Goa en mai 1548. La détermination de François est arrêtée. Il ira au Japon. Il se borne à en informer Ignace sans pour autant lui en demander la permission, qui ne pourrait parvenir à temps. Il embarque le 23 juin 1549 à bord d'une jonque chinoise dont le commandant est connu sous le nom de pirate. Au début, tout va bien. Mais l'humeur du pirate change vite. La tempête gâte les choses, d'autant que la fille du pirate tombe à l'eau. C'est la faute des chrétiens. La tension monte. On arrive aux abords de Canton où l'équipage veut relâcher. Discussions et menaces. Le pirate finit par céder et reprend la mer jusqu'à Kagoshima qu'ils atteignent le 15 août 1549. La petite équipe y reçoit un accueil de curiosité réservée. Le pays est structuré à la façon de la féodalité médiévale d'Occident. Après un mois d'attente, le seigneur local, le Daimyo, permet la mission. Les gens affluent autour de François, mais peu se convertissent. François écrit au père de Goa « Ce peuple est vraiment le meilleur qu'on ait découvert. Les gens sont pauvres, mais nul ne regarde la pauvreté comme une honte. C'est une race très sobre dans le manger, un peu moins dans le boire. Ils sont monogames, il y a peu de voleurs. Malheureusement, les bonzes deviennent ses ennemis. » Anne Giraud convainc François qu'il faudrait remonter au sommet de la hiérarchie féodale et se présenter à l'empereur en sa capitale de Miyako, l'actuelle Kyoto. En bateau ou à pied, on remonte donc vers le nord. On s'arrête à Yamaguchi, la seconde ville du pays. Le daimyo y est puissant. Ses acolytes, les samouraïs, tournent les Occidentaux en dérision. La fierté de François en pâtit. Le petit groupe se sent menacé. François répète alors à ses compagnons « Prenez sur vous, dominez cette crainte. » De là, ils partent à pied en plein hiver vers Miyako. Cette marche épuisante se solde par une cruelle déception. L'empereur est un vieillard sans autorité. La vie intellectuelle n'est pas ce que Anne Giraud avait décrit. Point d'université, peu de curiosité métaphysique. Le petit groupe repart donc vers Yamaguchi. Entre-temps, les missionnaires ont étudié le japonais. En discutant avec les bouddhistes, les positions religieuses respectives s'éclairent et se comparent. Plus de 500 personnes, souvent haut placées, se convertissent et plus tard, le successeur de Yoshikata, le daimyo, se convertira aussi. Cette communauté restera très fidèle. Au Japon, l'absence des Portugais a simplifié la tâche. En 1551, à son départ du pays, malgré les difficultés climatiques et les rebuffades nombreuses, François garde un souvenir chaleureux de ce pays si différent de ce qu'il a vu jusqu'à présent. À demain.